Radio Okapi. Journal présenté par Noëlla Louzitu Kabambi.
Privilégier les voies et moyens les mieux adaptés à la recherche d'une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs, c'est l'engagement pris par les participants aux Journées sociales du CEPAS édition 2025 qui ont pris fin hier à Kinshasa. Le directeur du CEPAS demande à tous ses acteurs, notamment ceux de la société civile, de s'impliquer effectivement dans la recherche d'une paix durable en RDC. Nous parlerons également de l'Office congolais de contrôle avec la poursuite hier des travaux de la commission mixte syndicat-employeur en présence du délégué de l'inspection générale du travail. C'est pour mettre fin définitivement au mouvement de grève des agents de cet établissement public. Vous aurez aussi droit, comme d'habitude, à l'invité du jour vers la fin du journal. Pour ce matin, il s'agit de Chivis Chivwadi, secrétaire général de l'ONG Journaliste en danger GED. Chivis s'exprime sur la décision annoncée par le CESAC portant interdiction aux médias de relayer les activités du PPRD et de Joseph Kabila. Bonjour à tous. Commençons d'abord par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Sur le plan diplomatique, notez que le président du Conseil du Togo, Faure Esozimna Niasingbe, désigné médiateur de l'Union africaine dans cette crise, s'est entretenu le 3 juin à Lomé avec Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Selon la présidence du Togo, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges diplomatiques visant à renforcer les efforts pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Madame Bintou Keïta a salué les initiatives de médiation du président du Conseil pour favoriser une issue diplomatique à la crise. Elle a réaffirmé le soutien des Nations Unies au président du Conseil togolais qui continue d'œuvrer pour une paix durable dans la région. Le président du Conseil multiplie les contacts et les consultations avec les protagonistes ainsi que les partenaires régionaux et internationaux en vue de créer les conditions favorables à un dialogue inclusif et à une solution pacifique durable en RDC, affirme notre source. Les acteurs sociopolitiques, étatiques et non étatiques, et quelques partenaires internationaux se sont engagés autour du Centre d'études d'action sociale à privilégier les voies et moyens le mieux adaptés à la recherche d'une paix durable à RDC et dans la région des Grands Lacs. Engagement pris à l'issue des Journées sociales du CEPAS édition 2025, dont les travaux se sont clôturés hier à Kinshasa. Occasion pour le directeur du CEPAS de plaider pour que tous ces acteurs se saisissent de ce processus et soient impliqués dans la recherche d'une paix durable en République démocratique du Congo. Les propos du père Alain Nzadi Nzadi sont recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Pour moi, la principale recommandation, c'est que le Congo se ressaisisse pour déterminer son avenir, pour se réorganiser, pour améliorer sa gouvernance aussi bien politique que sécuritaire. Ainsi, il pourrait être en mesure, effectivement, de discuter responsable avec les autres pays voisins pour voir comment on peut instaurer une paix plus durable, non seulement en RDC, mais aussi dans les Grands Lacs. Nous ne sommes pas obligés de nous faire continuellement la guerre. Nous ne sommes pas obligés de nous haïr continuellement. Nous avons 9 voisins. Il est donc important que nous fassions tout pour être en paix, pour vivre en paix à l'intérieur du pays, mais aussi avec tous les 9 voisins. Et c'est là que je rappelle le rôle capital que doit jouer la société civile pour se saisir de ce processus, pour qu'on ne laisse pas simplement les politiciens discuter de notre avenir, mais que l'on soit tous impliqués, puisque la paix, finalement, nous concerne tous.
Notez que ces journées sociales du CEPAS 2025 ont été organisées en collaboration avec l'Université Loyola du Congo, le Centre de recherche Ebouteli et le CADISEC, Centre chrétien d'action pour dirigeants d'entreprises du Congo. Toujours à Kinshasa, plusieurs voix, tant de la société civile que de la classe politique, dénoncent la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, interdisant aux médias de relayer les activités du PPRD et de Joseph Kabila. Des organisations comme l'Association africaine de défense des droits de l'homme AZADO et l'ONG journaliste en danger GED, pour ne citer que celle-là, qualifient cette décision de dérive autoritaire et d'abus du pouvoir. Ces structures appellent le CESAC à revenir sur sa décision qui porte atteinte à la démocratie, affirme-t-elle. Grâce à Mzati.
Le président de l'AZADO, qui juge cette mesure d'arbitraire, pense qu'une telle décision pouvait se justifier si le PPRD était déjà dissous. Cette décision est prise sur base de quoi ? S'interroge Jean-Claude Katende, qui la considère comme un règlement des comptes. Pour cet activiste, le CESAC doit éviter de s'engager dans les jeux politiques. Réaction similaire de Georges Kapiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage qui condamne la décision, car selon lui, le parti politique de Joseph Kabila n'est jamais dissous par une décision judiciaire devenue définitive. Pour sa part, Jonas Tiombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, déclare, je le cite, « L'espace de libre expression démocratique est en train de se rétrécir dans le pays ». De son côté, Journaliste en danger dénonce l'attentat contre la démocratie. Son secrétaire général Tivis Tivoadi rappelle que le CESAC est une instance de régulation et non un outil de censure des médias. En réaction, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, commente, je le cite, « Nous sommes devant une situation de crise et dans une telle situation, il y a une gestion de crise qui s'impose. Nous sommes devant une guerre informationnelle. » Fin de citation. Il souhaite que le président du CESAC discute avec les journalistes sur ces sujets pour qu'il y ait une meilleure compréhension des mesures conservatoires qu'il a prises en fonction de la situation du pays.
En Ituri, la recrudescence de l'insécurité depuis environ un mois dans plusieurs localités du territoire de Djougou accentue la vulnérabilité de la population victime des violences et des groupes armés depuis 2017. Dans une déclaration à la presse hier, l'association culturelle Inté déplore les tueries, les tracasseries militaires, la restriction des mouvements des populations et le pillage des bêtes. L'association culturelle Inté, qui regroupe le peuple Emma, demande au gouvernement de traquer les groupes armés pour restaurer l'autorité de l'État dans la région. Isaac Raymond.
Les combats se déroulent depuis environ un mois entre les FARDC et les groupes armés Convention pour la Révolution Populaire, CRP dans plusieurs localités dont Lopa, Jina, Nizi, Nyamamba, Masumbuko, Jovirakwa dans les territoires des Djougou. À cela s'ajoutent les exactions des groupes armés contre la population. L'association culturelle Inté déplore les meurtres de 7 personnes dimanche à Nizi et de 4 autres tombés dans une embuscade la semaine dernière de la milice Codeco à Masumbuko, mais aussi les pillages de plusieurs bêtes, notamment à la plaine du lac Albert. Cette structure dénonce également les tracasseries militaires en outrance dans les zones de combat. Son président cite l'interdiction des activités économiques, les rassemblements de la population et les punitions collectives infligées à certains habitants. Pire encore, l'assimilation de certains membres des communautés locales aux miliciens par les FARDC. Toutes ces violations des droits de l'homme accentuent la vulnérabilité de la population, rapporte l'association Inté. Cette dernière réitère son soutien au gouvernement dans la recherche de la paix en Ituri. Elle demande aux forces loyalistes de traquer les groupes armés pour restaurer l'autorité de l'État dans cette province et aux différentes communautés d'Ituri de se souder pour déjouer les manipulations pour les pousser à se dresser les unes contre les autres. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans le monde du travail, notez que les travaux de la commission mixte syndicat employeur de l'Office congolais de contrôle OCC se sont poursuivis hier au siège de cet établissement public à Kinshasa en présence du délégué de l'inspection générale du travail. Objectif, mettre fin définitivement au mouvement de grève des agents. Les avancées significatives ont été constatées parmi les revendications des agents et cadres, dont le paiement des agents de Goma et Bukavu. Vanessa Kongolo.
Au cours de cette réunion de la commission mixte, le président de la délégation syndicale nationale de l'OCC, Shiro Shiruzi, a salué la promptitude avec laquelle la direction a répondu aux revendications des agents. Il note des avancées dans les pourparlers.
Nous tenons à rappeler à l'ensemble du personnel de l'Office congolais de contrôle que nous avons comme priorité la défense de leurs intérêts. Oui, nous sommes en train d'avancer parce que déjà, il y a quelques pistes de solutions qui sont là. Aujourd'hui, on nous a signifié que le salaire du mois de mai sera payé d'ici la fin de la semaine. Nos amis de Goma Bukavu ont vu leur banque passer et nous croyons que nous allons rester sur cet élan-là.
Etienne Chimangamutombo, DG de l'OCC, explique la démarche.
Beaucoup de réponses et d'éclaircissements ont été donnés à la date et on avait constitué 3 grandes sous-commissions qui devait traiter les 3 problèmes et rendre les travaux mercredi. Mais nous venons de constater que toutes les sous-commissions n'ont pas rendu le travail et nous venons de nous convenir que 3 jours sont accordés à chaque commission et nous allons nous retrouver mardi le 10 pour clôturer la réunion et avoir un protocole d'accord.
Les délégués de l'inspection générale du travail demandent à ceux qui grèvent de rejoindre la table des discussions.
Pendant ce temps, les membres de la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPEF, ont déposé le mardi au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire un mémorandum dans lequel ils plaident pour le retrait immédiat ou la modification des alinéas 305 et 306 de la section V7 de l'instruction académique numéro 026. L'un de ces alinéas, à l'occurrence le 305, contraint les établissements d'enseignement supérieur à verser les quotités destinés au FPF dans des comptes bancaires ouverts et gérés par le cabinet de la ministre de l'ESU. Les syndicalistes plaident également pour le reversement intégral des fonds indûment logés dans des comptes non autorisés vers le compte statutaire de FPF. Le président de la délégation syndicale, Bilungi Salé Gabriel, revient sur les grandes lignes de leurs revendications au micro de Grasson Vuezolo.
Nous exigeons ce qui suit. 1. Le retrait immédiat ou la modification conforme aux lois en vigueur des alinéas 305 et 306. 2. Le reversement intégral des fonds indûment logés dans des comptes non autorisés vers les comptes statutaires du FPF. 3. La diffusion urgente d'une note circulaire corrective adressée aux établissements d'enseignement supérieur universitaire afin de rétablir la légalité des circuits financiers. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à l'état de droit, prôné par son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions, et nous rappelons à Madame la Ministre que ce blocage porte atteinte à la mission du FPF, notamment celle de promouvoir l'éducation et de la formation ainsi que la gratuité de l'enseignement de base cheval de bataille du chef de l'État.
3 cas confirmés et 21 cas suspects de Mpox se sont notifiés dans la zone de santé de Mambasa en Ituri. C'est le médecin-chef de cette zone de santé qui l'a dit hier. Dr Yunga Abedi affirme que les malades dont l'état n'est pas critique sont en isolement pour stopper la propagation de cette maladie. Il appelle toutefois la population de Mambasa au respect des mesures préventives, dont le lavage régulier des mains et éviter tout contact avec les malades. Restons à Ituri. Le centre de santé de Mandro, à 12 km de Bunia, ne dispose que de 4 lits pour plus de 14 000 habitants, ce qui pose un sérieux problème de prise en charge des malades, surtout des femmes enceintes. Selon l'infirmier titulaire, cette structure ne dispose pas de bâtiment pour la maternité et autres services pour l'accouchement. Il n'y a pas de médicaments, pas d'équipements appropriés et le personnel qualifié n'existe pas non plus. Corneille Ngaburo lance un appel à l'aide en vue d'améliorer les conditions de prise en charge des malades. Il est au micro de Bilo Bahati.
Le centre de santé Mandro se situe à 12 km de la ville de Bunia, dans la zone de santé de Lita. Nous avons une population de 14 289, mais nous nous butons à des difficultés relatives à la maternité. Nous avons un seul petit bâtiment qui a seulement 4 lits, et si nous avons déjà les malades en observation, nous manquons où encadrer les femmes enceintes. Nous n'avons pas un endroit pour la CPN, nous n'avons pas une salle pour diriger l'accouchement et nous n'avons même pas une salle de postpartum. C'est ce qui fait que nous avons une difficulté par rapport à la santé de reproduction dans notre aire de santé Mandro. Nous faisons juste ce qui est à notre niveau pour arriver à aider les gens, mais ça ne répond pas aux normes. Nous voulons avoir au moins un endroit ou une salle où nous allons nous occuper des femmes enceintes, la maternité, la CPN jusqu'en postpartum. Ça fera notre joie.
Toujours en santé, le mois de juin, autrement appelé juin vert, est consacré par le monde médical à la sensibilisation et au dépistage du cancer du col de l'utérus. À Lubumbashi, les gynécologues appellent les jeunes à se faire dépister pour éviter cette maladie qui cause la mort de nombreuses jeunes filles et des femmes lorsqu'elle est découverte à un stade avancé. Docteur Justin Kujirabuinja, membre du Centre national de lutte contre le cancer, est joint par Jean Gando.
En RDC, comme dans les autres pays du monde, le mois de juin est célébré pour rappeler à la communauté et à la population la prévention et la lutte contre les cancers du col de la matrice. Le thème retenu pour cette année est l'importance du dépistage et de la prévention contre les cancers du col de l'utérus, en encourageant la vaccination contre les human papillomavirus HPV, virus sexuellement transmissible qui cause le cancer du col de l'ITERIS. Par rapport à la prévention, nous allons nous axer sur deux grandes lignes, entre autres la vaccination. Concernant les filles et garçons, et à l'âge variant entre 11 et 19 ans contre les HPV, ainsi que le dépistage volontaire des femmes en activité sexuelle variant entre 25 ans et 60 ans. Pourquoi les garçons? Parce que les garçons sont des porteurs sains. En vaccinant les garçons, on protège indirectement les filles, ces femmes non vaccinées. Faites-vous dépister, faites-vous vacciner pour prévenir le cancer du col de l'utérus.
Actualité internationale.
Donald Trump interdit l'entrée aux États-Unis aux citoyens de 12 pays. C'est pour, selon le président américain, protéger son pays des terroristes étrangers. Décision annoncée après l'attaque du Colorado qui a visé les participants d'une marche de soutien aux otages israéliens à Gaza. Malgré cette justification, ces interdictions ne visent pas l'Égypte, pourtant pays d'origine de l'accusé de l'attaque. L'interdiction, qui sera effective dès le 9 juin courant, concerne plusieurs pays. Pour l'Afrique, il s'agit du Tchad et de la République du Congo. Les autres pays sont l'Afghanistan, la Birmanie, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen, selon la Maison Blanche. Sept autres pays sont visés par des restrictions, c'est-à-dire le Burundi pour l'Afrique ainsi que le Togo, sans oublier Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Turkménistan et le Venezuela.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, notre invité, c'est le secrétaire général de l'ONG, journaliste en danger, GED. Chivis Chivwadi s'exprime sur la décision annoncée mardi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, d'interdire aux médias de relayer les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, ainsi que les activités menées par l'ancien chef de l'État et autorité morale du PPRD, Joseph Kabila. Chivis Chivwadi s'entretient avec Grâce Hamzadi.
Chivis Chivwadi, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre réaction à cette décision du CESAC interdisant la diffusion des activités du PPRD et de son président ou de son autorité morale Joseph Kabila dans les médias?
D'abord, sur le plan de la forme, je constate que cette décision est signée par 5 personnes sur les 15 membres qui composent l'Assemblée plénière du CESAC en violation de leur propre règlement intérieur, parce que je pense que le bureau ne peut pas engager l'Assemblée plénière et même toute l'institution. Je rappelle, et tout le monde le sait, et depuis plusieurs mois, le CESAC traverse une profonde crise interne due au fait justement que M. Boussembe s'évertue à gérer cette institution d'appui à la démocratie comme un bien privé et au gré de ses propres intérêts politiques, en violant systématiquement la Constitution qui garantit la liberté de la presse et la loi organique qui institue le CESAC comme une instance de régulation et non comme un outil de censure des médias. Cette dernière décision, qui est bien sûr décriée par tout le monde de bon sens, constitue à nos yeux un attentat contre la démocratie qui risque malheureusement d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent ils ont pris les armes pour combattre la tyrannie qui est en train de s'installer ici à Kinshasa. Et je pense qu'il est temps absolument qu'on puisse arrêter certaines sortes de folies et cette dérive qui est en train d'être faite par le CESAC. La liberté de la presse dans ce pays, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau d'un prince qui peut décider de la donner ou de le donner ou de le retirer quand il veut. Je crois que c'est un droit qui est garanti par la Constitution, qui est au-dessus de tous les autres textes. Et donc, je pense, une décision illégale et arbitraire ne peut ni être opposable, ni s'imposer à personne.
Et quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision dans la communauté?
Ben, écoutez, j'ai dit tout à l'heure que la liberté de la presse, c'est un droit qui est reconnu, qui est garanti. Donc, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un caprice. Donc, les journalistes et les médias qui sont appelés à faire leur travail doivent absolument continuer à faire leur travail et considérer qu'une décision qui viole la loi, qui viole la Constitution, ne peut pas s'imposer, ne peut pas s'appliquer à eux. Aujourd'hui, j'ai vu que il y a une sorte de levée de bouclier général, aussi bien dans le milieu de la presse et même le milieu de la société civile et de la politique, pour dénoncer effectivement cette dérive démocratique qui est en train de s'installer. Et je pense que ceux qui croient faire plaisir peut-être au pouvoir sont en train de porter, de nuire à l'image même démocratique de notre pays. Et je pense que il faudrait que ceux qui en ont le pouvoir puissent effectivement arrêter cette dérive. Et je pense qu'il est temps de le faire.
Et qu'est-ce que vous conseillez aux médias? Qu'est-ce que vous recommandez aux médias? Quelle attitude les journalistes ou les médias doivent prendre face à cette décision?
Non, moi je n'ai pas de conseils ou de recommandations. Je crois que les journalistes doivent s'assumer. Les premiers défenseurs de la liberté de la presse, c'est les journalistes eux-mêmes. Donc c'est à eux de défendre leur métier. Ils savent quelles sont les limites de la loi qui garantit l'exercice de leur métier. Ils connaissent bien quelles sont les limites. C'est à eux d'assumer leurs responsabilités.
Chivis Tivadi, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Au micro, c'était Noéla Luzitu Kabambi, à la mise en onde Mimi Kinou, sous la coordination et la supervision de Jude Mister Bilanda. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et nous dédions ce journal à la mémoire de Léonard Moulamba Kalala, premier rédacteur en chef congolais de Radio Okapi et qui a pris sa retraite de la division de l'information publique de la MONUSCO il y a environ 2 ans. Léonard Moulamba Kalala, affectueusement appelé par tous Papa Léo, a quitté la terre des hommes ce jeudi 5 juin vers 1h du matin ici à Kinshasa des suites d'une maladie. Que l'âme de Papa Léo repose en paix.